Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. C'est l'histoire d'une fratrie à jamais bouleversée. Des âmes fortes et blessées par l'existence météorique d'un petit être aveugle aux membres inertes qui portait souvent un pyjama en coton violet. Un enfant lourdement handicapé, un bébé éternel, couvé, protégé par un frère aîné en mission et longtemps rejeté par une cadette révoltée. Un pantin désarticulé, plus tard sublimé par le Benjamin, né après sa mort et devenu implicitement l'enfant de la consolation. Présence physique d'un petit spectre fragile qui deviendra un instrument de connaissance de soi pour chacun des membres d'un clan cimenté par la douleur. S'adapter, le beau roman de Clara Dupont-Monod sera ce matin le fil rouge d'une émission consacrée aux frères et sœurs d'enfants en situation de handicap. Avez-vous eu le sentiment d'être une victime collatérale du handicap de votre frère ou de votre sœur? Quelle était votre place et vos relations? N'hésitez pas à témoigner ce matin au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter ou en laissant une note vocale sur l'application France Inter. Bonjour Gwenaël Moulet.
Bonjour.
Ma vie de parent, c'est tous les mercredis vers 11h moins le quart. Le menu.
Eh bien aujourd'hui, je m'attaque à la question des rivalités frères-sœurs et comment la question du handicap peut peut-être nous aider à les penser autrement.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Au début, j'étais pas beaucoup avec elle, j'allais pas beaucoup vers elle. C'est comme si je voulais pas l'ignorer, mais je l'ignorais en fait, presque. Plus le temps a passé, plus je me suis mis à me rapprocher d'elle, à faire plus de jeux avec elle, et à me rendre compte qu'en fait, certes, elle avait un handicap, elle était différente, mais aussi qu'elle n'est pas que handicapée, qu'elle est aussi... Elle est drôle, elle est gentille et tout, et j'ai beaucoup d'affection pour elle, parce que vraiment, c'est vraiment un bébé super... Et qu'il suffit de passer cette barrière du handicap pour parfois jouer et aimer, se rendre compte que l'handicap n'est pas tout ce qu'est Sophia. Et c'est pareil pour tous les petits, pour tous les enfants handicapés et même les adultes handicapés du monde. C'est que oui, ils ont un handicap, mais ils sont pas seulement handicapés. Et je pense que c'est ça qu'il faut se dire quand un petit frère ou une petite sœur.
Extrait du podcast Décalé, on vient d'écouter Paul, 11 ans, à propos de sa sœur Sophia, 3 ans. Bonjour Clara Dupont-Monod.
Bonjour Ali.
Vous êtes écrivaine et journaliste, productrice de l'émission Livre et Châtiment, le dimanche à 17h sur France Inter. Et vous publiez chez Stock, S'adapter, en lice pour le prix Goncourt. Et vous avez reçu hier soir le prix Landerneau. S'adapter, c'est l'histoire d'une fratrie bouleversée par l'arrivée d'un enfant lourdement handicapé au milieu des montagnes Cévenoles. Un roman découpé en 3 parties, respectivement consacré à l'aîné, à la sœur cadette et au dernier né après la mort de ce frère handicapé. Une histoire racontée par les pierres rousses de la maison Cévenoles, comme un cœur antique. Pourquoi ce parti pris, Clara Dupont-Monod ?
Le parti pris des pierres ?
Des pierres.
Dans les Cévennes, il y a ce qu'on appelle des murets de pierres sèches, c'est-à-dire que les pierres tiennent entre elles, non pas grâce à du ciment ou à du lion, mais en fait par la grâce du soutien que l'une apporte à l'autre. C'est un savant dosage de poids et de taille des pierres, et il me semblait que ça représentait la fratrie, c'est-à-dire que l'une soutient l'autre, et j'avais très envie de montrer la fratrie aussi sous cet angle de soutien, de veille les uns sur les autres, de vigilance mutuelle.
Je lis les premières lignes de votre roman. Un jour, dans une famille, est né un enfant inadapté. Malgré sa laideur un peu dégradante, ce mot dirait pourtant la réalité d'un corps mou, d'un regard mobile et vide.
Oui, c'est ça. Les mots sont pas adaptés, c'est le cas de le dire, je trouve. En français, c'est pas... Alors après, on n'est jamais content, évidemment, de ce qu'on a quand ça recouvre une réalité si sensible. Hein. Mais c'est vrai que, même inadapté, quand je l'écrivais, je me disais « bof ». J'ai failli appeler ce texte « l'inadapté ». Et en fait, non, ouais. Abîmé. Mais même moi, je l'emploie, ce mot. Mais c'est pas trop valorisant, en vérité. Et en effet, c'est un enfant qui arrive dans cette famille. Et au départ, on pense qu'il est normal. Et en fait, le temps passe. On s'aperçoit qu'il ne voit pas, qu'il ne bouge pas, en effet. Alors, il n'est pas paralysé, mais il est mou. Mmh.
Il faudra donc s'adapter à ce bébé éternel au corps désarticulé. Chacun des frères et sœurs devra s'adapter à cet enfant inadapté. Et cet enfant, dit inadapté, deviendra le grand révélateur de l'inadaptation de chacun des frères et sœurs.
Ah, c'est très vrai. Merci Ali. En effet, la question en fait qui sous-tend le point de vue des frères et sœurs, en fait, c'est mais s'il faut s'adapter à l'inadapté, c'est qui le plus inadapté ? Ça pose aussi la question de la norme, quand même. Et à un moment, le frère aîné, dans son lycée, est très gêné par le brouhaha des groupes, par la pétarade des mobilettes, par le fracas du portail. Il est arrivé à un réel haut niveau d'acuité sonore, parce que son petit frère ne peut qu'entendre, et que donc il communique avec lui via l'ouïe. Et en fait, il sursaute à tous les éclats de bruit qu'il y a devant son lycée, et il rigole tout seul en disant « mais en fait, c'est moi qui suis inadapté ».
Alors au départ, personne ne perçoit le problème, le bébé était même très beau, mais au bout de 3 mois, on s'aperçoit, vous l'avez dit, que l'enfant ne babille pas, il reste silencieux, sauf pour pleurer, pleurs, sourires, froncements, soupirs, sursauts, et c'est presque tout. Très vite, les parents s'aperçoivent qu'il n'est pas très tonique, et dans l'Obs, Jérôme Garcin écrit justement qu'on dirait qu'il a, dès sa naissance, renoncé à être.
Ah oui, c'est très beau. Oui, et en même temps, il est là. C'est ça qui est très troublant avec ces enfants, et sans doute ces handicaps, mais d'autres aussi. Ce sont des êtres, en fait, qui ignorent fondamentalement la malveillance. Il y a aucune once de cruauté en eux. Ils n'ont pas eu tous les rouages de l'altérité. En tout cas, ils en ont une autre, d'autres rouages. Et ça en fait des êtres extraordinairement touchants. On voit toujours le côté un peu contraignant qui existe d'une personne handicapée. Et en même temps, si on s'y attarde 2 secondes, c'est aussi quand même un mode de communication que vous arrivez à instaurer avec elle, infragestuel, infravisuel, infralangagier, parfois infrasonore. Et donc, ça vous amène quand même à une sorte de lien très pur. D'ailleurs, à un moment, l'aîné, il dit qu'il tient là l'expérience de la pureté. Et en effet, c'est compliqué de pas trop s'attacher, parce que, mine de rien, et puis ils ont cette espèce, vous savez, de réaction extrêmement touchante. Ils sont capables de se marrer simplement parce qu'ils ont le ventre plein, parce qu'ils ont chaud, parce qu'ils sont propres, parce qu'ils sont juste bien. Il y a là une sorte de besoin primaire rassasié, et ça suffit à la joie. Et quand même, ça vous remet un peu les pendules à l'heure.
Les parents restent au second plan, des parents au contour flou, comme dans un roman de Modiano.
Oui, en ombre chinoise à l'arrière. J'aurais été incapable d'écrire sur ce que peut ressentir un parent à la naissance d'un enfant handicapé. En revanche, c'était la fratrie, moi, qui m'intéressait, qui est toujours un peu l'oublié d'une histoire.
Alors, il ne s'agit pas d'un témoignage, d'un roman autobiographique, même si cette histoire trouve un écho dans votre vie. Votre frère handicapé meurt à l'âge de 10 ans.
Oui, c'est ça. En fait, c'est parti d'une expérience, en effet, autobiographique. Dans notre famille, on a eu un enfant handicapé qui est mort, en effet, à l'âge de 10 ans, qui était atteint du même handicap que dans le livre, c'est-à-dire, le mot un peu barbare, c'est encéphalopathe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui marche, hein. Sauf Louis. Bon, mais c'est déjà ça. Mais on en a fait, enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas du tout été quelque chose qui m'a mise à terre. Moi, c'est quelque chose qui m'a construite. Je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est pas quelque chose qui m'a retenue vers les bas-fonds noirs de chagrin. Pas du tout. C'est quelque chose qui m'a apporté une dimension qui me sert encore aujourd'hui tout le temps et qui m'a, mais prodigieusement enrichie. Donc, il y avait l'idée aussi, à un moment, de pas dommage, mais je voulais pas, en tout cas, que ce soit un texte sombre. Je voulais quelque chose d'un peu lumineux. Et c'est pour ça que je voulais pas du tout le faire sous le prisme du chagrin ou de la perte, même si il y a de la tristesse. C'était quelque chose où je voulais rendre hommage à sa présence, en fait. Parce qu'à un moment, la joie d'avoir côtoyé cet enfant a enfin supplanté la tristesse de sa disparition.
Présentez-nous la fratrie. L'aîné d'abord. L'aîné qui semble avoir été enfanté par les montagnes Cévenoles. Vous écrivez d'ailleurs, la montagne avait infusé en lui une forme de beauté. C'est un beau garçon, hein, intimidant, un seigneur. J'ai d'ailleurs pensé au charisme d'Alain Delon dans Le Samouraï en lisant le portrait que vous faites de cet aîné.
Oui, il est on le suit, lui. C'est l'aîné. Tous les aînés sont comme ça. On en parlera tout à l'heure avec nos spécialistes. Mais souvent, les aînés, ils sont avec la machette et ils tranchent le sentier pour qu'on puisse circuler dans la jungle, hein, quand même. Hein. C'est avec les aînés que les parents font les premières erreurs qu'ils ne reproduiront pas sur les cadets. Et donc, l'aîné, il a une sorte de responsabilité. Donc, jusqu'à présent, c'était celui qu'on suivait. C'est celui qui fait des batailles d'algues, croque dans les oignons crus, n'a pas peur des pipistrelles, qui sont les chauves-souris qu'on trouve dans les Cévennes. Et à l'arrivée de cet enfant, en fait, quelque chose va tellement le remuer au fond de lui. Il y a une vulnérabilité, en fait, qui le touche tellement, qui va devenir extrêmement protecteur et l'entourer.
Et ce frère handicapé devient un fidèle compagnon à la hauteur de son idéal chevaleresque.
Oui, il est très idéaliste. Ouais. En effet, il a un petit côté un peu loyauté au-dessus de tout, le serment qu'on tient. Donc, forcément, il va être déçu par la nature humaine.
Oui, ça.
Mais, son frère, non. Il ne va pas le décevoir.
Et l'aîné couve, protège son petit frère. Je vous cite. L'aîné essuyait la bouche de l'enfant, calait son dos, caressait sa tête, il éloignait les chiens, demandait le calme, il ne jouait plus avec ses cousins ni sa sœur. Et ailleurs, vous écrivez, il posait sa joue sur celle de l'enfant, émerveillé par cette pâleur si douce, et il restait ainsi dans ce contact immobile, peau contre peau.
Oui, ça c'est quelque chose qu'on retrouve, enfin en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai fait, et je me suis rendu compte que les gens qui s'occupaient des enfants handicapés, c'était aussi quelque chose qu'ils faisaient souvent. On est beaucoup dans le toucher en fait avec ces êtres-là, et des choses qu'on s'interdirait peut-être aujourd'hui dans la vie courante, mais le fait de toucher, caresser, ébouriffer, masser, c'est un mode de communication, et l'aîné en effet est très...
est en mission.
En mission, c'est vrai, il y a quelque chose d'un petit peu...
De christique.
Oui, un peu christique, un peu d'apôtre aussi. Il est transcendé par cette cause qui s'appelle son petit frère. À partir de là, il va le défendre, il va le protéger.
Et ce qui est très beau, par exemple, quand il s'attache à stimuler l'ouïe de son frère, ce qui est très beau, c'est ce que vous écrivez, il lui chuchotait les nuances de vert que le paysage déployait sous les yeux, il froissait des branches de verveine séchées contre son oreille.
Et ça, c'est la montagne hein, qu'il lui offre. Et la montagne, en fait, je tenais vraiment à poser l'histoire dans les Cévennes, parce que la montagne exige une humilité de l'homme et non pas l'inverse. Ça nous change un peu, quand même. On retrouve cette même logique sur les bords de mer. Souvent, les marins, en fait, ont la même logique. Et l'idée, c'est de faire avec la montagne et pas contre. Si vous faites contre ces éléments, vous êtes perdant. Et en fait, les enfants, ils vont devoir appliquer cette logique à leur vie. Alors, ça a l'air de rien, c'est ultra difficile de faire avec et pas faire contre. Et ils vont devoir apprendre à le faire.
Bonjour Muriel Sibilla.
Bonjour.
Vous avez été professeur de lettres, journaliste, et vous publiez chez Slatkin « Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants malades ». Vous avez rencontré des enfants en mission auprès de leurs frères ou de leurs sœurs handicapés, à l'image de cet aîné dans le roman de Clara Dupont-Moneau.
Alors, il y a plusieurs éléments que je retrouve effectivement dans les témoignages qui sont dans mon livre, en particulier cette dimension de protection. Mais ce que j'ajouterais, moi, c'est que c'est très ambivalent, c'est-à-dire que là, vous avez... décrit le paysage soleil, ce que moi j'appelle le paysage soleil, où il y a effectivement plein de choses magnifiques qui se développent dans la confrontation avec la maladie grave ou le handicap. Moi, j'ai plus travaillé sur le côté nuit, le côté sombre, c'est-à-dire les souffrances qui sont très méconnues, aussi bien de la part des familles, de l'entourage et parfois du corps médical, de cette fratrie qui est contrainte de vivre une expérience sur laquelle elle a très peu de prise, en fait.
Ce sont des fratries de l'ombre qui peuvent se vivre comme des victimes collatérales ?
Oui, bien sûr. Alors, je dis bien sûr, mais c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse. En fait, les fratries qui sont confrontées à ce genre de situation ne se vivent pas comme des victimes. La victime, c'est l'autre. C'est celui qui est malade, c'est celui qui est handicapé. Et notamment dans mon livre, Jacques Lecomte propose de considérer cette
fratrie.
Professeur
en psychologie.
Hein. Oui, oui. Il propose d'accorder ce statut de victime aux fratries, de manière à ce qu'ils puissent, à partir de là, se reconstruire et retrouver une énergie et s'en servir comme tremplin pour retrouver un peu leur sens de vie.
Clara Dupont-Moneau, je n'ai pas vu vos personnages, l'aîné, la cadette, le dernier, né après la mort de cet enfant handicapé, comme des victimes collatérales.
Oui, Et ils le sont un petit peu, ouais. Et en même temps, moi, en les écrivant, j'ai réagi comme vous, en me disant, ils sont pas victimes. Et en fait, après coup, ce sont les gens, en fait, qui, quand je signe en librairie, qui m'en parlent, comme vient de le faire Muriel. La cadette, par exemple. Alors, je sais pas si on peut en parler là ou si on, vous vouliez peut-être qu'on en parle.
Juste après le
disque. l'idée, c'est qu'il y a un peu de révolte quand même. Mais c'est vrai, en même temps, en vous écoutant, que quelque part, ils sont un peu victimes aussi, parce qu'ils ont été pris dans un ballotage, un grand ballotage d'événements, et la fratrie a ceci de particulier que un seul et même événement va être vécu de façon complètement différente selon la place que vous occupez dans la fratrie. Alors que, événementiellement parlant, ça va être la même chose. Mais si vous êtes cadet, dernier ou aîné, c'est, en fait, vous n'avez pas le même livre de, c'est intéressant quand même, hein. Ça va être complètement différent.
Oui, c'est vrai, la place est très importante parce qu'il y a des rôles qui sont attribués. Donc vous parliez de l'aîné, effectivement c'est celui qui défriche. Et par exemple, quand il y a un enfant handicapé qui naît dans la famille, ça va renforcer encore plus son statut d'aîné, de protecteur. Par contre, si c'est un enfant qui naît après, c'est très compliqué parce que normalement il a la position du petit. Et quand il y a un enfant handicapé... Quand on parle de handicap, il y a des handicaps très très différents, je veux dire. C'est pas la même chose d'avoir un frère ou une sœur trisomique ou un frère ou une sœur qui a vraiment un handicap moteur et cérébral. C'est des histoires complètement différentes. Mais par exemple, quand on est le petit et qu'on a un frère ou une sœur qui est lourdement handicapé, eh ben, à un moment donné, on devient le plus grand de son grand, et c'est très très compliqué, donc on perd son statut de petit, et en plus de ça, ça peut avoir des conséquences, c'est-à-dire que ça peut perturber les situations d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on peut ne pas s'autoriser à grandir, à se développer, parce qu'il y a ce frère ou cette sœur qui est arrêté quelque part.
Clara Dupont-Menon.
Oui, et je suis d'accord avec vous, c'est un organisme vivant, la fratrie, où les qui se réinvente tout le temps. Ouais. Le dernier devient le parent des parents, la cadette devient l'aîné de l'aîné, et puis après, vous savez pas, au gré du temps, ça va rechanger, au gré des enfants peut-être qui vont naître, de la vie qui passe, hop, ça va reprendre sa place, et puis ça va peut-être réexploser à nouveau. Mais je ne connais pas d'organisme aussi littérairement intéressant que la fratrie, en fait.
Gonelle Boulet.
Oui, et puis en discutant avec un ami qui avait un petit frère handicapé, qui est décédé après, il me disait, lui, que ce qu'il avait marqué, c'était, il avait pris conscience de ça après une analyse, etc. C'était vraiment cette responsabilité avant l'âge qu'il avait dû avoir. Il me disait, moi, le rôle que j'ai dû jouer, c'est le rôle de celui qui doit pas poser de problème, qui doit n'apporter aucune inquiétude dans la famille. Et bien sûr, il en veut pas à ses parents qui ont fait ce qu'ils ont pu pour ce petit frère qui avait ses besoins particuliers. Mais lui, il s'est rendu compte en grandissant, justement, qu'il s'était complètement construit avec ce rôle de ne pas poser de problème. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de fratries avec une présence de handicap.
Alors, complètement, il y a vraiment cette position de l'enfant modèle où il faut pas faire de bruit, il faut créer aucun problème. Et ça, c'est, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de sexualité, ou c'est, je sais pas comment on dit, mais c'est-à-dire que les garçons vont pas forcément réagir de la même manière que les filles. Les filles vont devenir presque des petites mamans, souvent. Et les garçons, alors, je généralise un peu, mais les garçons vont être plutôt ceux qui vont faire du bruit, qui vont devenir insupportables à l'école, qui vont, dans mon livre, par exemple, il y en a un qui va aller jusqu'à faire un casse dans son village parce que son seul objectif, c'est de retrouver l'attention des parents et du monde.
Ce n'est pas le cas du dernier dans votre roman, hein, Clara Dupont-Menon.
Il est calme, lui.
Très calme.
Et il est calme. Et en fait, lui, il arrive après les drames, en effet, donc il n'a pas le droit d'en créer. Ouais. Ça, c'est vrai. Et lui, il a droit à la question en forme de vertige qui est, si t'étais pas mort, est-ce que moi je resterais là? Ouais. Et ça, c'est encore une autre problématique qui est bien compliquée. Mais il sait qu'il arrive escorté d'un fantôme. Donc c'est pareil, il va faire avec et pas faire contre. Il va accepter ce rôle d'enfant cicatrice. Ce sera l'enfant responsable de la convalescence de ses parents. Et si ça doit être celui qui rafistole et suture, eh ben il le fera.
Allez, dans quelques instants, Clara Dupont-Menon, vous nous présenterez la cadette, nettement moins en fusion, avec ce frère qui, il faut le dire, la dégoûte. Juste après avoir écouté Claude Nougaro, La pluie fait des claquettes.
La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pie verticale, son sourire de nacre, sa pointure de cristal. La pluie, aussi douce que Marlène, aussi vache que Dietrich, elle trouve mon bas de laine, que je sois riche ou pas riche. Mais quand j'en ai ma claque, elle essuie mes revers et m'embrasse dans la flaque d'un soleil à l'envers. La pluie, avec elle je m'embarque en rivière de diamants, je la suis dans les cloaques où elle claque son argent. Je la suis sur la vitre d'un poète endormi, la tempe sur le titre du poème ennemi. À force de rasade, de tournée des grands ducs, je flotte en eau gambade, la pluie perd tout son suc. Quittons-nous, dis-je, c'est l'heure, et voici mon îlot. Salut, pourquoi tu pleures? Parce que je t'aime, salaud. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit.
Claude Nougaro, la pluie fait des claquettes.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi sur France Inter.
Et on s'intéresse aux fratries confrontées au handicap, l'occasion de la sortie du roman de Clara Dupont-Mono s'adapter. Alors Clara Dupont-Mono, après avoir fait connaissance de l'aînée, présentez-nous la cadette de la fratrie qui accueille donc un enfant lourdement handicapé. Dès sa naissance, elle lui en veut. Elle en veut à cet enfant qui aspire toutes les forces de la famille.
Elle a un côté révolté. C'est celle qui dit non, la cadette. C'est celle qui n'a pas tout de suite compris qu'il fallait mieux faire avec et pas contre. Et elle fait contre. Et donc, elle est révoltée. D'abord, ce petit frère, il a beau être inerte, il fait quand même un maximum de dégâts. Alors que, quand même, il peut même pas lever la tête.
Elle se demande par quel miracle un être diminué pouvait faire tant de dégâts, un enfant qui détruisait sans bruit.
Exactement, il lui confisque son frère aîné, dont elle était très proche. Donc elle se sent dépossédée de son frère aîné. Il aspire l'énergie de ses parents. Et après, elle a quelque chose. Alors ça, je tenais absolument à en parler, parce que c'est un peu politiquement incorrect, mais n'empêche que ça existe. Et je pense qu'il faut que ce soit audible. C'est le recul qu'on peut avoir devant un enfant handicapé, en tout cas en tant que fratrie. La sœur, elle l'a.
Elle est dégoûtée.
Elle est dégoûtée. D'abord, il y a des tas de petits mots physiques qu'elle maîtrise pas et qui la, oui, qui l'écœure un peu. Ce sont des orgelets, ce sont des petites crises d'épilepsie. C'est un repas qui prend une heure et demie. C'est une déglutition lente.
Elle est dégoûtée au moment du bain du petit.
Oui, parce qu'en fait, la vulnérabilité l'effraie. Comme c'est un enfant qui est maigre et qui est très pâle et qui est donc la proie en fait de c'est cette vulnérabilité en fait qui l'effraie. Et après, il y a même des une sorte de la physiologie de la position allongée fait que ses pieds sont cambrés comme ceux d'une ballerine parce qu'en fait ils se sont jamais posés à terre. Son palais est creusé parce que il a toujours été en position allongée.
Ses dents poussent de travers.
Donc en soi c'est pas très grave, mais la cadette, elle, eh ben ça lui fait faire un bond en arrière.
Et elle réprime sa violence contre lui.
Oui.
Il y a une scène dans votre roman où elle jette un coussin, c'est ça ?
Elle donne un coup de pied dedans.
Ouais.
Et les pierres voient ça et disent, on connaît par cœur, on la connaît cette violence, ça fait des millénaires qu'on en est témoin. Et c'est tout aussi audible, cette violence et cette révolte, je trouve, que l'abnégation et l'amour fou. Ça fait partie des réactions qu'il faut savoir reconnaître et entendre.
Muriel Sibilia, vous êtes l'autrice de Sortir de l'ombre, sur cette cadette révoltée.
Alors, ça arrive effectivement très souvent, mais en même temps, aussi souvent, il y a un couvercle qui est mis sur la révolte, qui se permet pas de s'exprimer, et qui va se traduire par des comportements, et dans certains cas, même par des maladies, des pathologies, où on va retourner la colère contre soi, et on va se faire du mal, ou alors on va la déplacer, faire du mal à un animal, par exemple, ou à un copain, parce qu'il y a toute cette colère, toute cette agressivité, qu'on ne se sent pas en droit d'exprimer dans ce genre de circonstances. Et je crois que le sentiment le plus violent et le plus difficile à gérer pour les fratries confrontées à ce genre de situation, c'est l'ambivalence.
Et excusez-moi, cette cadette, elle a honte de ce petit.
Et elle a honte d'avoir honte, Ali. C'est ça c'est ça qui est important. Mais les deux, l'aîné et la cadette, quand les regards se portent sur la poussette, quand ils se sentent à part, ils ont honte de ce petit frère et ils ont honte d'avoir honte. C'est le petit dernier qui traduit ça en disant c'est une honte honteuse. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui est assez fréquent.
Écoutons justement Léa Hirschfeld qui parle de la honte qu'elle a pu éprouver avec son frère Anton, atteint d'une maladie neurologique qui le handicape.
Anton, c'est mon grand frère, il a 2 ans et demi de plus que moi. Et quand je suis née, c'est exactement le moment où mes parents ont commencé à comprendre qu'il y avait des problèmes de développement chez Anton. C'est l'âge adolescent qui a vraiment créé une scission. Parce que il y a le rejet, quoi. Il y a le regard de l'autre déjà qui est difficile parce que t'as pas envie d'emmerder tes copains en les invitant à la maison et qui est ton frère qui parle comme ci ou parle comme ça, qui bave, qui est. Enfin, c'est très difficile parce que les enfants comprennent pas, donc ils sont parfois dans des réactions un peu genre dégoûtant. Et toi tu dis la même chose et tu t'en veux, mais en même temps. Il y a la pression du groupe, donc je sais qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de ça, où finalement, je voulais plus inviter d'enfants à la maison. En solo, j'étais hyper fière de lui, mais dès qu'il s'agissait d'être confrontée à des événements extérieurs, mais je voulais pas, en fait. Voilà. En fait, c'était un peu ma honte, tout en étant ma plus grande force.
Clara Dupont-Monod.
C'est très juste. La fratrie confrontée à un enfant handicapé, ils ont les mercredis après-midi en général déserts à la maison. Hein. Elle a raison, vous n'invitez pas.
La cadette rêve de banalité, oui. De normalité, d'inviter ses copines. Et le fait pas.
Non, elle ne le fait pas. Et le jour où elle tombe sur une publicité à la télévision qui dit refuser le banal, elle est estomaquée parce qu'elle donnerait n'importe quoi pour un peu de banal. Elle a qu'une envie, c'est que ce soit super standard, que justement ce soit très linéaire, sans vague absolument. Je termine, mais à un moment l'aîné il a ça aussi un peu parce qu'à un moment l'aîné il dit on a quand même besoin des autres comme cette espèce de gros cœur palpitant de normalité. On en a besoin. Donc des fois il s'autorise à faire semblant. A dit au supermarché, il est rempli de couches et de petits pots. Bon, on peut faire genre, c'est parce qu'on a un bébé à la maison. En fait, personne ne sait que le bébé, il est 8 ans et demi. Mais c'est pas grave, on va jouer à faire semblant parce que ça apporte un petit peu de normalité.
Alors, la cadette a essayé d'aimer ce frère handicapé. Elle n'y arrive pas.
Non, au départ, elle n'y arrive pas. Elle essaie de le porter à un moment, et comme là, il tient pas sa tête, elle a peur en fait, et la tête se balance dans le vide l'espace de quelques secondes, et ça lui fait tellement peur qu'elle le lâche, et elle s'en sentira aussi très coupable. D'ailleurs, plus tard, quand elle aura des enfants, elle les tiendra par la nuque, et en fait, le petit dernier sera le seul à comprendre que c'est parce qu'en fait, elle a été tellement marquée par cette nuque qu'il l'espace de 3 secondes, c'est un peu balancé, que du coup, elle tient ses enfants à elle, par la nuque. Ce sont des petites choses comme ça.
Muriel Sibilia, comment exprimer sa rivalité au sein de ce type de fratrie, rivalité naturelle, conflit fraternel naturel et sain, Mais comment on fait dans ce cas-là, dans ces cas-là?
C'est très très compliqué et c'est pour ça qu'il est important que les parents soient très très informés de ce qui se passe au niveau de leurs enfants, de manière à ce qu'ils puissent autoriser l'expression de l'agressivité de leurs autres enfants. Parce qu'en général, il y a cette espèce de réflexe protecteur, hyper protecteur, où on va évidemment jamais permettre à ce que un frère vienne tabasser son petit frère ou sa petite sœur qui est en chaise roulante ou qui est sur un lit d'hôpital. Donc il y a une espèce de barrière transparente qui est posée autour de l'enfant malade et contre laquelle les frères et sœurs vont se cogner. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des soutiens, notamment les grands-parents qui peuvent jouer un rôle extrêmement important dans le sens où c'est les grands-parents beaucoup et aussi les tantes, les oncles, ce sont ceux qui permettent aux autres d'être à nouveau les enfants de la famille.
Et la grand-mère maternelle, c'est un refuge pour cette cadette.
Oui, la grand-mère maternelle va comprendre de son œil d'aigle et sans mots, très protestante en quelque sorte,
n'est-ce pas,
instantanément la situation. Et en fait, elle va la hisser à la hauteur des autres parce qu'elle va l'abonner à OK Magazine. Elle va l'emmener au cinéma. Donc en fait, la cadette, elle pourra dire dans la cour de récré, moi aussi j'ai vu À la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas, elle va pouvoir porter les jeans neige, les mâcher du tubblegum. En fait, son adolescence, en fait, elle va lui offrir une normalité. C'est ça qui fait que plus tard, la cadette s'entendra dire à son petit frère, quand il y a dans une fratrie un élément, entre guillemets, qui est un peu défaillant, entre guillemets, garder un œil sur les autres, en fait, ceux qui vont bien. Enfin, on dit ça en même temps, ça a l'air facile, mais pour les parents, c'est archi compliqué. Ils peuvent pas avoir un œil partout. Enfin, je sais pas, Muriel, ce que vous en pensez. Il y a plaidoyer pour les parents.
Non, mais c'est vrai que, par exemple, l'un des signaux qui peut être très paradoxal, c'est qu'il faut s'interroger quand les enfants vont trop bien, quand les fratries vont trop bien. Il faut interpeller ça. Alors, ça ne veut pas dire que les fratries sont nécessairement malades, mais ce qui est clair, c'est que les fratries sont des populations à risque auxquelles il faut être très attentif et donner des pistes pour leur permettre d'exprimer à la fois ce qu'ils ressentent et puis de se construire différemment avec leur situation réelle au sein de la famille.
Et puis il y a le Benjamin qui naît après la mort de cet enfant lourdement handicapé. C'est l'enfant qui arrive après le drame. L'enfant qui ne serait peut-être pas né sans tous ces drames vécus par le clan. Il grandit sous les soupirs de soulagement.
Alors, parce que lui, il marche, lui, il tend la main, lui, il voit. Il communique, donc les parents arrêtent pas de faire des photos, comme s'il fallait une preuve. Et puis ils sont plus habitués, les parents. La rentrée des classes, le précédent, il en avait pas. Toute la normalité d'un petit enfant, ça s'était passé à la trappe. Et en fait, ils se réjouissent de toutes petites choses, mais le fait qu'il marche, musculairement parlant, c'est quand même prodigieux la marche quand ça fonctionne. Donc en fait, il leur en faut assez peu aux parents, mais ils sont hyper contents.
Et il sera soulagé. Et il sera le grand réconciliateur.
Oui, c'est ce que j'appelle moi les enfants cicalfate.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire, vous savez, cette crème qu'on trouve en pharmacie. Oui. Pour cicatriser les bobos, je pense que c'est pas très confortable, hein, cela dit, mais c'est comme ça, c'est la place donnée, il faut la prendre. Et lui, il est celui qui va escorter la convalescence des parents. Et en même temps, il y a quelque chose qui lui pèse, c'est tout ce référent émotionnel commun dont il est exclu. Tout ce que sa famille a vécu alors qu'il n'était pas encore né. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre un peu de la mise à l'écart, et il n'y peut rien.
Muriel Sibylle.
Oui, ça c'est un sentiment très très fort quand, par exemple, il y a eu un décès de l'enfant malade et qu'un autre enfant, un enfant en réparation, arrive après. Il y a ce sentiment d'être exclu, même si la fonction de réparation et de cicatrisation est quelque chose de très positif, qui peut être aussi très lourd, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi cette espèce de vide où il y a toute une famille, tout un entourage qui a vécu, qui en parle. Il y a cet avant et cet après dans lequel celui qui vient d'arriver est totalement exclu et ne sait pas très bien comment tricoter son histoire avec tout ça.
Mais c'est là, pardon Ali, mais c'est là aussi où il y a une forme, alors là pour le coup, un peu de responsabilité de l'entourage familial. C'est sûr que si on parle tout le temps du défunt, c'est compliqué de trouver sa place. Là, la chance de cette famille dans le roman, c'est qu'elle lui fait une place. À un moment, il le dit. Il dit, bon, ce qui fait que je me sens pas tant dépossédé que ça, c'est qu'en fait, tous les moments que j'ai avec mes parents, ils n'appartiennent qu'à moi. Même le petit fantôme ne me les prendra pas. parce qu'ils sont qu'à moi. Donc il tisse aussi son histoire à lui, avec ses parents, et c'est là où on voit à quel point, alors que c'est la même fratrie, les mêmes parents, c'est pas du tout la même histoire, en fait. C'est vrai, hein, selon la place qu'on a dans la fratrie.
Bonjour Maïder.
Bonjour Ali.
Bonjour, vous appelez du 18e arrondissement de Paris. Oui, vous vouliez témoigner exact. Ce matin, Maïder.
Oui, je voulais témoigner parce que vous avez partagé des extraits du podcast, mais aussi de la vidéo témoignage d'une de mes meilleures amies, Léa Hirschfeld, du coup la créatrice du podcast Décalé, et je voulais un petit peu vous parler du regard que je porte en tant que meilleure amie, mais surtout ce que j'ai vu en fait chez elle et la transformation qu'il y a eu en libérant la parole autour de son podcast. Donc en fait, Léa, elle a un frère qui s'appelle Anton, qui est 2 ans de son aîné, qui est peintre, mais qui aussi atteint un trouble neurologique assez sévère. Et vous l'avez dit, en fait, elle a découvert un petit peu ce handicap et elle a réellement réalisé avec le regard des autres et justement la honte que ça a pu créer. Et ça a vraiment été une souffrance pour elle entre cette ambivalence entre admiration et rejet à cause du regard des autres. Et elle a toujours tourné en fait autour de ce sujet, sans vraiment savoir quoi en faire. Elle a toujours été un petit peu tourmentée en fait. Donc moi je l'ai vue en fait depuis 10 ans tourner autour de ça, pas vraiment savoir quoi en faire, théâtre, cinéma. Et puis il y a eu une révélation en fait. Elle s'est confinée avec ses parents et son frère pendant le premier confinement. Elle avait mis beaucoup de distance en fait entre elle et son frère. À partir du moment où elle a quitté la maison, et puis là tout d'un coup de revenir au milieu de tout ça, elle a voulu en parler. Elle a voulu justement partager au grand jour et au grand public en fait cette réalité là, la richesse que ça peut être au quotidien, ce décalage et aussi l'adaptation en fait justement que ça a été. Et en fait, en partageant sur les réseaux son récit, elle a reçu en fait des milliers de témoignages d'autres personnes en fait, de frères et de sœurs qui n'avait jamais eu l'occasion de pouvoir en parler à quelqu'un d'autre, qui se sentait assez seul en fait dans leur parcours. Et elle a vraiment en fait les témoignages qu'elle reçoit au quotidien, en fait ils donnent une idée de l'ampleur du besoin, quoi. C'est que il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se sentir moins seules dans ce rôle-là.
Et c'est un peu votre cas, Clara Dupont-Mono, hein.
Oui, la fratrie, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas. En même temps, c'est bien légitime. Vous voyez, en tant que parent et entourage familial, on est d'abord occupé à tenir debout. Donc, il y a vraiment de pierres à jeter à personne. Mais c'est vrai que quand vous êtes au sein d'une fratrie, vous êtes occupé à penser qu'il faut globalement que tout aille bien. Et c'est sûr que, regardez, Ali, même littérairement parlant, c'est pas tant exploité que ça. Non. On a les parents-enfants, mais on n'a pas tellement la fratrie, en fait.
Maïder parle de révélation, cet enfant lourdement handicapé sera le grand révélateur de la fratrie. Par exemple, le vrai moi de l'aîné va se révéler avec ce petit frère adoré.
Oui, alors même si c'est pas joyeux.
Non,
mais en même temps, c'est...
Mais il grandira sans se lier. Hein.
Voilà.
Se lier, c'est trop dangereux.
Et oui, il a aimé une fois, il dit on me reprendra plus. Et il y a quelque chose que j'aime bien chez lui, moi, c'est qu'on est quand même dans une société qui passe son temps à vous dire, faut aller de l'avant, vous voyez, faut avancer, fais ton deuil, tourne la page. Lui, il dit, non. En fait, il fait un pas en arrière du monde, et c'est là où il est en paix avec lui. En vérité, nous, ça nous heurte parce qu'on passe, on est dans le mouvement. Mais en fait, lui, il dit, si faire son deuil, c'est renoncer à son propre chagrin, j'ai pas envie. Donc en fait, si le chagrin, c'est tout ce qui me reste de ce petit frère, je choisis en fait le chagrin. Donc il va travailler dans les chiffres, parce que les chiffres, ça trahit pas. Lui qui a été la proie de l'arbitraire, il a l'espoir fou qu'ainsi le sort le laissera en paix, mais c'est son choix et il est apaisé que comme ça.
Et je rappelle que vous êtes l'aîné et on peut lire à cet homme-là votre roman Clara Dupont-Mono. Allez, il est temps de retrouver Ma vie de parent de Gonelle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Aujourd'hui, Gonelle Boulay, vous avez choisi de nous parler des rivalités frères-sœurs et du handicap dans la fratrie.
Et oui, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai toujours pas trouvé la solution miracle pour éviter les « mais lui, mais jamais la table et vous ne dites rien », « les mamans, il m'a tapé » ou les « de toute façon, je sais, vous le préférez ». On a beau me dire que la jalousie, les rivalités et les conflits sont l'essence même des rapports entre frères et sœurs, mon Dieu, que c'est usant, fatigant, épuisant de devoir jouer les casques bleus du matin au soir. D'autant que dans une fratrie, vous avez toujours un petit comptable, particulièrement doué pour comparer la taille de sa part de gâteau avec celle des autres, ou la durée du câlin accordé à chacun. Et nous, bien sûr, nous avons vite fait de tomber dans le panneau, en lâchant un vague « Mais non, elles sont pareilles, ces parts de gâteau !» ou de répéter pour la millième fois « Mais voyons, tu sais bien qu'on vous aime autant !»
Alors apparemment, ce ne sont pas les bonnes réponses. Hein,
non, Ali, non, non, Ali, ce serait trop simple. Car dans le langage enfant, autant, ça veut dire moins. Oui, être aimé pareillement, c'est être aimé moins. Et on peut se le dire tout de suite entre nous, parents persuadés d'être d'une justice absolue avec nos enfants, la course à l'égalité est une chose perdue d'avance. Là où le parent cherche l'égalité, l'enfant ressent l'inégalité. Pourquoi ? Parce que les besoins de nos enfants ne sont pas les mêmes. Et que non, même si nous n'en avons pas toujours conscience, nous n'aimons pas chaque enfant de la même façon. Alors attention, j'ai pas dit qu'on les aimait forcément plus ou moins, mais juste différemment. Et être aimé de façon unique, pour soi-même, c'est être aimé autant que nous en avons besoin.
Et pour vous, la présence d'un enfant en situation de handicap dans une fratrie permet de prendre davantage conscience de ça ?
Oui, en discutant avec des amis qui avaient eu des frères, des sœurs malades ou handicapés, des parents de fratrie avec un enfant porteur de handicap, ce qui ressortait de façon assez unanime, c'est que cette configuration plaçait justement au centre de tout la question du besoin de chacun. En effet, quand un enfant est porteur d'un handicap, physique ou mental, l'idée des besoins différenciés s'impose immédiatement. Il ou elle a des soins, des accompagnements, du temps, des attentions spécifiques dont les autres enfants de la fratrie n'ont pas besoin. Et dès le départ, c'est comme ça. Et si le quotidien des parents d'enfants porteurs de handicap est éreintant, semé d'embûches et parfois décourageant, les frères et sœurs d'enfants handicapés intègrent très bien cette question de la différence. Tout comme ils intègrent très bien la question de la fragilité et développent souvent un grand sens du soin et du service. Alors c'est vrai, certains de ces frères et sœurs diront qu'ils ont été responsabilisés trop jeunes, qu'ils ont vite compris que leur rôle à eux était de ne pas poser de problème à leur entourage. Mais la grande majorité d'entre eux ont en même temps chevillé au corps cette conscience que l'amour parental n'est pas un gâteau qu'on partage en parts égales, mais qui se distribue pour répondre à des besoins uniques. Alors on sait que la comparaison agit comme un poison dans une fratrie. Et malheureusement, dans notre quotidien de parents, on n'y échappe pas toujours. Les enfants passent leur temps à se comparer, et nous, inconsciemment, le faisons un peu, beaucoup, passionnément, selon les familles. Alors, un des moyens d'en sortir est peut-être de se recentrer sur cette question des besoins, en essayant d'identifier avec chacun les talents et les forces sur lesquelles il peut s'appuyer, et les fragilités, voire les handicaps, pour lesquels il a besoin d'aide et de soutien. De regarder ensemble aussi là où chacun peut peut-être, non pas être un concurrent, mais une ressource pour l'autre. Bon alors à ce stade, je le sens bien, vous êtes en train de vous dire, elle est bien sympa la nana de la radio, mais on n'a pas 10 heures par semaine à consacrer à l'analyse fine des besoins de nos enfants. Alors je vous rassure, moi non plus, mais je crois que nichée dans un coin de notre tête, cette histoire de besoin de chacun peut peut-être nous aider à recentrer le débat lors d'une prochaine dispute autour du lavabo ou d'une part de gâteau.
Et Muriel Sibilla, vous acquiescez.
Oui, parce que je crois qu'effectivement la question des besoins est une question centrale, et le point commun entre les jeunes avec qui j'ai travaillé notamment, c'est justement d'oublier ses propres besoins parce que les besoins de l'autre, de celui qui est malade, sont prioritaires et rassemblent l'attention de tout le monde. Et ça peut aller très loin. L'un des jeunes dit « Ma maladie à moi, c'est le délaissement de soi ».
Ma vie de parent, à réécouter ou à podcaster sur l'appli et le site de France Inter. Dans un instant, le témoignage de Redouane Tella et d'Ada Abdelli.
Mornings turn to night, and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when I'm new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me.
captive if it's where I wanna be.
Gabriel s'interprétait Blame.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
10h51, la fratrie à l'épreuve du handicap, c'est notre thème ce matin, à l'occasion de la sortie du roman de Clara Dupont-Monod, S'adapter. Et nous accueillons Redouane Tella, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef de l'Instant M et auteur du podcast Redouane, avec un point d'exclamation, disponible sur toutes les plateformes. Alors vous souffrez d'un handicap physique depuis la naissance,
oui.
Vous êtes le benjamin d'une fratrie de 4, 22 ans d'écart avec l'aîné.
C'est ça, ouais, on a énormément d'écart avec ma grande sœur et moi... Et en l'occurrence, du coup, ça change un peu les rapports, parce que on n'est pas dans une concurrence frontale, je suis déjà le tout petit, donc du coup, ils m'ont surprotégé, et j'ai eu la chance d'avoir des frères et sœurs qui m'ont surprotégé de tout, même du handicap, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que le handicap n'existe pas à la maison, donc on n'y pense pas. On fait comme si ça n'existait pas, était notre petit frère, et c'est tout. Donc, c'était top de mon point de vue, parce que ça m'a permis de grandir en n'étant pas empêché, en me disant, bon, bah, peut-être que je peux faire du basket, alors qu'en l'occurrence, je ne pouvais pas en faire, mais parce que, j'imitais mon frère qui, lui, faisait du foot. Et ça, je trouve que c'est un avantage. Après, il y a un gros inconvénient avec le recul, c'est que le problème, c'est que du coup, on gomme tout ce qui fait le handicap, et notamment le monde extérieur. Parce que si eux ne voyaient pas mon handicap, dehors, on le voyait.
À l'école, notamment.
À l'école, on le voyait. Et donc, ils ont souvent du mal à comprendre ma personnalité, qui s'est construite justement avec ce handicap, notamment mon hypersensibilité sur certains sujets, ma dureté, mon extrême violence parfois. Et ça, du coup, ça a créé un petit décalage entre ce que je pouvais vivre à l'extérieur de la maison et la réalité du foyer.
Ada Abdelli, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Ali.
Vous êtes comédien, auteur de la série Vestiaire sur France 2. Vous avez contracté la polio...
Série à succès, pardon.
Vous avez contracté la polio quand vous viviez en Algérie. En préparant cette émission, vous m'avez dit qu'il existait une sorte de déni, de tabou autour de votre handicap. Racontez-nous.
Ben, c'est-à-dire que... Bon, alors, je suis pas resté très longtemps avec mes frères et sœurs, donc je leur ai épargné de grandir avec moi. Mais je suis parti pour me faire soigner en France. Mais le peu que j'ai passé avec eux, on parlait jamais du handicap. Ça ne veut pas dire qu'il était nié. Il était là, mais on n'en parlait pas. En fait, il n'existait pas, mais quand même, il existait.
Mmh. Et vous en avez souffert, après coup, de ce déni?
Non, parce que, si vous voulez, on n'en parlait pas. Et comme je vous disais, il existait quand même. Parce que mes frères et sœurs, enfin mes frères, parce que c'était le dernier, se sont vite rendus compte qu'ils pouvaient être très utiles. Notamment, par exemple, parce qu'ils faisaient pas la queue au cinéma et surtout, ils payaient pas. Donc j'avais le droit de voir tous les films. J'ai vu pas mal de films. Ça plaisait beaucoup aux filles de voir un garçon qui s'occupait de son petit frère handicapé. Donc je sortais partout. J'ai tenu la chandelle très petit. Et du coup... ça m'a plutôt mis en valeur. J'étais devenu un objet de séduction, ce qui n'a pas changé avec l'âge. À 54 ans, je suis toujours aussi voilà. Et donc ils savent toujours pas que je suis daltonien en fait.
Redouane t'es là.
Alors non, malheureusement mon frère n'a pas réussi à drailler grâce à moi. Mais c'est vrai que pour le coup, couper les queues, etc. Ils en ont pas mal profité.
Mais est-ce que vous avez vécu ce déni? C'est une forme de déni. Le fait de ne pas voir votre handicap. Comment l'avez-vous vécu a posteriori?
Après, je pense que pour eux, c'était vraiment une question quasi politique. Il fallait faire en sorte qu'il n'existe pas, parce que c'est pas ce qui me définissait. Et pour le coup, moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai pu m'épanouir au sein du foyer. Je me suis jamais vu comme l'enfant handicapé, le benjamin handicapé, celui qu'il fallait surprotéger. Grâce à mon podcast, j'ai échangé avec énormément de personnes qui partagent le même handicap que moi, l'hémiplégie, et je sais que dans certains foyers, bon, on les voit et on les définit d'abord comme des personnes handicapées, qu'il faut couver, protéger, etc. Alors que moi, j'avais des relations de frères et sœurs, et je pense qu'avec le recul, c'est peut-être ce qui m'a sauvé.
Votre regard sur le témoignage de Clara Dupont-Mono ce matin?
C'est très différent parce qu'on parle pas des mêmes handicaps. Moi, pour le coup, c'est un handicap qui ne m'empêche pas de vivre, où je suis pas dépendant des autres. Donc, du coup, on n'a pas le même rapport à sa fratrie. Mais j'ai trouvé ça très touchant et surtout, avec le recul, j'ai très envie de lire le bouquin parce que je pense que ça va me permettre de comprendre certaines caractéristiques de mes frères et sœurs que moi je ne voyais pas dans mon rôle égoïste d'enfant handicapé, mais peut-être que eux se sont construits grâce à moi différemment.
Adam Deli, comment votre handicap a-t-il façonné, transformé votre fratrie?
Alors, pour rebondir sur le livre de Madame Dupont-Mono, que je trouve hyper intéressant, mais du point de vue du handicapé, du coup, parce qu'on parle de valide autour d'un handicap. Moi, j'ai été très marqué par les frères et sœurs d'enfants handicapés. J'étais dans une école handicapée quand j'étais petit, donc j'ai évolué dans ce milieu-là. Et souvent, j'ai vu les frères et sœurs des enfants handicapés. Et ça a créé quelque chose en moi d'assez bizarre et d'assez étonnant. C'est que quand j'ai eu mes enfants, les deux premiers que j'ai déclarés, donc qui avaient un an d'écart, j'ai été omnibulé par l'idée, et tout à l'heure, votre psychiatre, psychologue, on a bien parlé, par l'idée de l'égalité. C'est-à-dire, quand je faisais un bisou à l'un, je courais faire un bisou à l'autre. Bon, sachant que je vais passer avec des béquilles, il fallait un certain temps.
Muriel Sibylla, vous n'êtes pas psychologue,
non,
Muriel
Sibylla,
mais il faisait référence à ce que vous disiez tout à l'heure.
À propos de?
Sur l'égalité.
L'obsession de l'égalité. Oui, mais c'est effectivement ce que vous disiez, c'est impossible. On peut pas aimer ses enfants pareil, ouais, parce qu'on les a pas eu au même moment, parce que chacun a un caractère différent. Donc, on peut dire qu'on les aime autant. Ça peut être vrai, mais c'est vrai qu'il faut faire attention sur l'amour que les parents peuvent porter à celui qui est malade, qui relève très souvent de la surprotection, parce que c'est aussi une façon de se rassurer pour les parents, et qui crée un sentiment d'injustice très profond chez les frères et sœurs, parce que, par exemple, on va louer chaque petite réussite de celui qui est malade, et ne pas voir les réussites des autres. Donc, à nouveau, c'est vraiment très ambivalent et très très complexe.
Clara Dupont-Mono.
Oui, juste pour dire que moi, quand je suis devenue parent à mon tour, alors ça a été au contraire hyper zen. J'y suis allée, mais alors hyper zen. À partir du moment où, en gros, la grosse catastrophe était arrivée, j'y allais les doigts de pied en éventail. C'était tout juste, si je disais pas au gynéco, bon, il voit, oui, bon, ok, c'est bon. Super, champagne.
Merci Adam Abdelli d'avoir témoigné. Merci Redouane Tella. On peut retrouver votre podcast Redouane avec un W et un point d'exclamation sur
ça.
Toutes les plateformes. Pour terminer, Clara Dupont-Mono, longtemps après la mort de votre frère handicapé, que reste-t-il de lui en vous?
Ah, si vous saviez, il reste des tas de choses merveilleuses que j'aurais pas pu avoir s'il n'avait pas été là. Il reste une forme de sensorialité, en fait, que j'aurais pas développée comme ça.
Qu'on sent dans le roman. Hein.
Ah, bah tant mieux, tant mieux. Vraiment, avec tous les sens en éveil, il y a quand même la notion de soins à autrui, mais doublé d'un, j'espère, d'un fort pragmatisme. Vous voyez, c'est-à-dire que t'as pas trop de temps à perdre. Bon, ça va pas. Ça marche pas. Et on n'en fait pas un fromage. Et ça, je pense que j'aurais pas pu l'avoir sans lui. Et puis, vous savez, on est tous pareils, mais cette espèce de présence, il y a des tas de domaines où je reste l'aînée, en fait, pour toute la vie.
Merci beaucoup, Clara Dupont-Mono. S'adapter est publié chez Stock et c'est un roman en lice pour le prix Goncourt. Merci, Muriel Sibylla. Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades, et publié, rappelez le titre de votre éditeur,
Slackline.
Merci. Demain, comment la mode pollue la planète, avec la complicité du 1 Hebdo.